S&P 500 peut-il échapper à la correction à 6200 points? Le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable. Chers amis, première partie de cette vidéo, pourquoi se poser la question? La valorisation, le risque géopolitique, pas de retracement depuis 9 mois. Ok, ça c'est le contexte. Première partie, la réponse précise à cette question de l'analyse technique. Deuxième partie, la réponse, oui je lis mes notes, la réponse de l'analyse sectorielle et la réponse de l'analyse des Magnificent Seven. Troisième partie, la réponse de l'analyse entre small cap, mid cap et big cap du marché action américain. Quatrième partie, cette semaine. Je vous avais dit que les chiffres de l'inflation seraient bons la semaine dernière. Je vous l'avais dit. Et bien cette semaine, c'est le retour de l'inflation US-PCE. Qu'en est-il de la Fed? Quelles sont les nouvelles anticipations? Cinquième partie, on enchaîne. Alors peut-être qu'entre le moment où j'enregistre et où je publie, vous avez la réponse. Mais qui de Kevin Assett ou de Kevin Warsh est le plus favorable aux actifs risqués? Peu importe si vous connaissez maintenant qui est patron de la Fed, le prochain, je vous fais un topo sur les deux. Et puis retenez ce qui est... Et puis en fonction du candidat qui est choisi, vous avez l'information. Sixième partie. La semaine dernière, je vous ai fait un topo sur les secteurs en lien avec la géopolitique. Venezuela, Groenland, Moyen-Orient, Iran, etc. Le S&P 500 matériaux a explosé. Je vous refais un petit topo sur ce sujet. C'est parti, nouvelle édition du Top Gun.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, ravi de vous retrouver. Alors maintenant, je fais comme ça. Je commencerai chaque Top Gun et chaque Fast and Forex. La première minute, je vous donne le plan. Ça vous plaît, vous restez. Ça vous plaît pas, vous restez pas. Et ensuite, je blablate. Non, parce qu'on disait que je blablatais trop d'un coup et qu'on savait pas ce qu'allait arriver. Voilà, maintenant, je vous ai donné le plan. Mais franchement, restez parce que là, j'ai vraiment... Je vais aller dans les détails. Ce qu'il faut bien comprendre, le S&P 500 corrigé à 6200 points. Il faut casser un support. Pour qu'il casse un support, un indice n'existe que parce que des actions le composent. Pour qu'il casse un support, il faut que les actions qu'il compose cassent un support. Or, elles ont tout un poids différent. Pour que le S&P 500 casse un support, il faut que le secteur de la tech casse un support. Pour que le secteur de la tech casse un support, il faut que les actions des Magnificent Seven cassent un support. Justement, ça tombe bien, la semaine prochaine, c'est leur résultat trimestriel. Et là, elles sont toutes sur des niveaux techniques pivots. J'en peux plus. Elles sont toutes sur des niveaux techniques pivots. Le S&P 500 retracera 6200 points vers sa moyenne mobile à 200 jours le jour où ces 7 actions casseront les supports. Elles cassent pas, c'est bullish. Elles cassent, c'est bearish. Point final. Point final. Pas plus compliqué que ça. Oui, il y a les autres secteurs, mais il ne se passera rien de majeur sur le S&P 500 sans que le signal soit donné par le secteur de la tech. Alors bien sûr, il y a plein de choses à faire après sur les secteurs en particulier. Je vous ai notamment parlé du secteur des matériaux qui a explosé à la hausse. Mais en lien avec toute l'actualité géopolitique, et Venezuela, Groenland notamment, pour les entreprises américaines. Bon, donc là on va faire un truc complet, c'est la question que tout le monde se pose. Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup, 9 mois sans retracement. Le SP500 a déjà fait mieux, a déjà fait pire, mais clairement cette correction nous pend au nez. Sauf qu'à l'appeler toutes les semaines, il y en a qui depuis des mois vous dit ça va corriger, ça va corriger, ça va corriger, ça va corriger, ça va corriger. Ça corrige jamais. Mais ça viendra. Tôt ou tard. Peut-être pas forcément 6002. D'ailleurs, pourquoi 6002? J'aurais pu. Non, j'ai arrondi. C'est l'ancien record historique. C'est faire un retour à l'ancien record. Voilà. Et avant ça, il y a par exemple la moyenne mobile à 200 jours qui est plutôt à 6004, 6005. C'est plus crédible qu'un jour intervienne un retest des 6005. 6002, il faudrait un choc exceptionnel. Bon, dans tous les cas, on va regarder ça en détail. Ce qu'il faut donc bien comprendre, c'est que ce S&P 500, bah, s'il existe, parce qu'il y a des actions dedans, et je ne vous apprends rien, les secteurs de la tech, c'est mathématique, hein. Mathématique, attention, truc de base, cours de CE2. Un indice n'existe que parce que des actions composent, elles sont rassemblées dans des secteurs. Bon, vous savez que chacune de ces actions impacte le S&P 500 en fonction de sa market cap. Donc forcément, lorsque vous avez 7 actions qui, par leur seul mouvement, créent 40% de la variation du SP500 et que les 493 autres n'expliquent que 60%, sachant qu'elles n'avancent pas ensemble, alors que les acteurs de la tech sont fortement corrélés, donc vous avez 7 actions qui pèsent 40% de l'indice hyper corrélé, 493 autres qui en pèsent 60% certes, mais qui avancent dans tous les sens différents. Donc, il se passera rien sans ces Magnificent Seven. Nous sommes dans la saison des résultats trimestriels. Vous savez bien que les bénéfices réalisés, les perspectives de bénéfices, si c'est si optimiste pour le SP500 cette année, c'est encore une fois grâce à la tech. Et j'ai fait le tour d'horizon technique des Magnificent Seven, des Mag 7. Et là, c'est magnifique. Il y a des niveaux techniques identifiables partout, des pivots techniques partout. Même, je vais vous faire l'analyse technique de l'indice sectoriel du secteur de la tech. Pareil, il est sur un pivot. Donc, on tient les pivots, ces boules, on les casse, on retrace. On tient les pivots, ces boules, on les casse, on retrace. Voilà, alors, j'enregistre la vidéo, bien sûr, je la publie lundi matin à 6h. Comprenez-moi bien que je ne l'enregistre pas de minuit à 6h. Donc, j'enregistre souvent la vidéo 3-4 jours avant. Peut-être que ce lundi, vous savez qui est le nouveau patron de la Fed, entre Kevin Assett ou Kevin Warsh. Il y a une vraie différence dans les deux, dans leur rapport aux actifs risqués en bourse. Donc je vous remonte un tableau comparatif sur ce sujet. L'inflation US, vous avez montré que l'inflation temps réel confirmait les chiffres de décembre. Beaucoup doutaient, non, on est à 3. Ben non, on n'est pas à 3. Ben non, ça a été confirmé à la semaine dernière à 2,6. Cette semaine, vous avez deux PCE, les deux PCE en retard à cause du shutdown. Ils sont publiés cette semaine, là, 22 janvier. Avant la fête finalement, qui est le 28. Le PCE temps réel, pareil, il drop. Je dis pas qu'il y a plus d'inflation, mais on est quasiment revenu au régime d'avant, quasiment. Il faut l'accepter. Bon, voilà. Et puis donc je veux aussi refaire un tour d'horizon de ces secteurs. Là, on parle pas de la tech, si on a marre de la tech. Alors c'est des secteurs dont personne ne parle parce qu'ils pèsent 3, 4, 5, 6%. Reprenez mon Fast and Forex de la semaine dernière. Je vous ai montré le poids de ces secteurs dans l'indice. Oui, ça pèse pas grand chose dans le calcul du SP500. N'empêche qu'il y a des configs techniques hyper intéressantes sur des secteurs moins valorisés, avec une analyse technique avec encore du potentiel, et en plus en lien avec le Venezuela, le Groenland, toutes ces perspectives géopolitiques que l'administration Trump essaie de favoriser dans le principe de l'America First pour les entreprises américaines. Voilà. Bon. Mais je vais juste vous remontrer les secteurs qui comptent. J'ai creusé un peu plus le sujet sur cet aspect géopolitique dans le Fast and Forex de la semaine dernière. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez le regarder. Voilà les amis, et eh bien écoutez, le S&P 500 peut-il échapper à la correction vers les 6200 points? Bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun. Le S&P 500 peut-il échapper à la correction à 6200 points? Répondons de manière construite et argumentée. Tout ce que je vais vous proposer dans ces slides reste parfaitement valable, bien sûr, quelle que soit l'action des prix au moment où vous allez regarder cette vidéo par rapport au moment où je l'enregistre. Si le marché a cassé les supports que je vais vous montrer, on ira au sud. S'il ne les a pas cassés, nous n'irons pas au sud. Et la tendance de fond aura toujours le dessus. 9 mois consécutifs sans retracement. Valorisation boursière proche de son record. Nouvelle saison des résultats trimestriels. Risque géopolitique. Alors, c'est pareil, c'est l'impression que cette année, certains découvrent qu'il y a du risque géopolitique. Incroyable, l'Iran n'était déjà pas un sujet, le Venezuela n'était déjà pas un sujet, l'Ukraine n'était déjà pas un sujet, le Proche-Orient n'était déjà pas un sujet, ce sont des sujets, c'est permanent, c'est un bruit permanent. Voilà, donc bon, pour un autre, il faut arrêter de faire, si on découvrait, incroyable, il se passe quelque chose. Bon, la question se pose du fait de la valorisation de l'absence de retracement depuis 9 mois, le plan je vous l'ai donné, il s'affiche sous vos yeux, et donc on attaque directement par la première partie. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Market can remain irrational longer than you can remain solvent. Bon, la traduction, je l'ai mis, mais bien sûr, hein, tout le monde la connaît. Les marchés peuvent rester rationnels plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable. Tout ça pour dire qu'il faut attendre les signaux. Criez au loup chaque jour, criez au loup chaque semaine. Ah oui, on finit par avoir raison. Mais, dans les faits, seuls les signaux tangibles, actés, comptent. Faites donc attention à ça. Une tendance se relance plusieurs fois, mais ne se retourne qu'une fois. Elle se retournera, viendra un moment. Faisons confiance donc aux signaux de l'analyse technique. Et donc c'est parti. La question se pose du fait de la valorisation. Proposons le contexte. Je vous rappelle que nous sommes dans la saison des résultats trimestriels. Quatrième trimestre 2025, mais avec les perspectives 2026. C'est ça qu'on regarde le marché. Le passé, on s'en fout. Risque géopolitique, absence de retracement depuis 9 mois. Donc ça, je vous montre déjà la première chose, sans parler des fondamentaux, pourquoi est-ce qu'on se pose la question? Bah, pour ça, voilà. Vous avez sous les yeux un graphique qui expose les bougies japonaises en données mensuelles. Pas de pause depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mois consécutifs sans retracement. Et 100% de hausse depuis le bottom ici. D'ailleurs, ici on avait fait 108 entre le bottom de 2002 et le sommet de 2007. Alors ensuite, il y a eu la crise financière. La partie technique, j'arrive. Commençons déjà par le commencement. Pourquoi est-ce qu'on se pose la question? On se pose la question, déjà, la question, il est logique de se la poser, la valo. Alors attention, il y a plusieurs façons de faire de la valo. Un des plus respectés par le marché, c'est le payout chiller. Le payout chiller du S&P 500 est actuellement à 40,6. On a dépassé le sommet de 2021. Mais regardez, le sommet historique de la bulle spéculative de 2000, c'est là. C'est 43,44. Alors, autant vous dire que lorsqu'on arrivera là, ce sera alerte rouge. Mais faut-il d'abord aller chercher ça avant d'entrer en correction majeure? Je dis bien correction majeure. Alors, pareil, revenir à 6200 points, ça fait que 10-12% de correction. C'est pas la fin du monde. Revenir à 6200, ça peut faire peur en nombre de points et sur le graphique, mais ce n'est que 12% de correction. Lorsqu'on vient de faire 100% de hausse depuis le bottom de 2022, faire 12% de correction, qu'est-ce que c'est? C'est un micro-retracement. C'est le rythme de marché. Bon, en tout cas, on se pose la question parce que, alors justement, le payout chiller rappelle que nous ne sommes pas au record historique. Nous sommes en approche. Alors, il y a d'autres façons de valoriser le marché, mais le payout chiller est quand même extrêmement respecté. Mais il faut effectivement regarder d'autres aspects. Vous avez notamment ici le PE forward, où là, par contre, le price earning forward, le prix du marché par rapport aux bénéfices anticipés des 12 prochains mois, nous avons approché le record absolu là, de 2020. Nous sommes là maintenant légèrement en retrait, mais effectivement, nous sommes dans une zone haute. Ici, selon le PE forward, selon le PE chiller, selon le PE classique, alors nous ne sommes pas encore au record absolu, mais nous sommes quand même au-dessus d'une zone haute et au-dessus de la moyenne des 5 et 10 dernières années. Donc effectivement, il y a de quoi se poser des questions. Le marché jusqu'à présent a tenu parce que les perspectives de profit sont toujours archi positives. Prenez par exemple les résultats du T4. Nous sommes là actuellement au cœur de la saison du T4. Attention les GAFAM, c'est à partir de la semaine prochaine. Cette semaine, vous avez quand même des résultats importants à suivre. Visa, Johnson & Johnson, Netflix, etc. La semaine dernière, c'était les banques. Voilà. Le marché, pour ces résultats du T4, anticipe pour le S&P 500 8% de croissance des bénéfices, dont 26% pour simplement la tech. D'ailleurs, pour la tech, c'est passé de 18% à 26% entre fin septembre dernier et maintenant pour les anticipations du T4. Et je vous rappelle aussi les anticipations incroyables pour 2026, 15% de croissance des bénéfices pour le S&P 500. Mais en fait, c'est 15% pour le S&P 500, mais c'est 25% pour la tech. Donc, tout est là. Alors, à la question, bien sûr, de savoir, voilà, est-ce que le S&P 500 peut-il échapper à la case 6200 points? Déjà, d'un point de vue fondamental, vous avez compris que, alors bien sûr, hors choc exceptionnel de type politique, géopolitique ou global macro, si on en reste sur des choses classiques, si ces anticipations de profit que je viens de vous montrer sont là, peut échapper à une correction. Et encore, moi je vous dis une correction de 10%. Même avec des bénéfices confirmés, et même avec des perspectives de bénéfices, imaginons qu'on arrive à maintenir le rythme encore 3 ans comme ça. Juste faire un retracement de 10%, ça peut être, il n'y a pas besoin de justification. Ça peut être un retracement naturel, une phase de prise de profit, et ensuite sur support, on re-rentre. C'est pour ça qu'il faut avoir ça en tête. Alors, la réponse, quelle est la réponse de l'analyse technique? Peut-on échapper à la case 6200? Je vous dis, réponse simple. On n'y échappe pas en cas de cassure de support. On n'y échappe pas en cas de cassure de support pivot. Encore faut-il identifier les bons niveaux. C'est ce que je vais essayer de faire. Et pas que sur le S&P 500. On va regarder ça sur les MAC 7 et sur l'indice sectoriel de la tech. Donc, peut-on échapper à ça? Donc, je vous ai... Alors, en mensuel, vous voyez où est-ce qu'on est, très bien. Il n'y a pas de divergence mensuelle. C'est vrai que toutes les fins de gros bull market précédents depuis 25 ans, il y avait des divergences mensuelles. Nous n'avons pas encore une divergence mensuelle. en weekly, oui, on est dans un autre canal, VAC 5, etc. Mais là, on n'est même plus en surachat en weekly. Bon, même de certaines façons, on serait sorti par le haut du canal. Le canal, je l'ai remis ici. Voilà, la question, le retracement à 6002, c'est ça. Pourquoi 6002? Bah, regardez, c'est l'ancien record. C'est l'ancien record historique. Lors de la guerre commerciale, les annonces des tarifs douaniers, en avril dernier, nous avons fait un retour à l'ancien record. Mais ce fut un choc donc exceptionnel qui causa ce retour à l'ancien record. Là, repasser de cette zone à 6002, c'est moins 12. Moins 12, c'est pas énorme, moins 12. Là, on a fait moins 20 quand même. Moins 12, ça peut se faire sans choc exceptionnel. Donc, on y échappe si on casse pas de support. C'est quoi les supports? Je vous remontre ici les enseignements du système Ishimoku. C'est tellement propre, c'est archi propre. Au-dessus du Kumo, c'est boule. On casse, on retrace. En-dessus du Kumo, c'est boule. On trace, le Kumo, c'est le nuage daily du système Ishimoku. Là. Donc, on retrace. Au-dessus du nuage, c'est boule. On casse, on retrace. Donc, là, quand j'enregistre cette vidéo, c'est peut-être différent lundi matin, mais vous avez, voilà, vous voyez, pour l'instant, on tient les supports. Donc, quels sont les supports à surveiller? Le premier court terme, c'est 6009, mais le vrai niveau, c'est 6700, 6750. Donc, 6009 court terme, on casse 6009, on va à 6750. Par contre, voilà, c'est casser 6750 qui crée un retracement qui sera compris entre 6005 et 6002. Ce niveau horizontal, moyenne mobile à 200 jours, et donc les 6166, quand je dis 6002, j'arrondis, hein. Et 6166, qui est l'ancien record. Donc, voilà le niveau, c'est 6750. Peut-on échapper à une forte correction? Oui, tant que le marché tient 6750 points. Non, en cas de cassure de ce niveau. Alors, d'un point de vue quantitatif, attention, le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours remonte en zone de surchauffe, mais il n'y est pas encore. RAS, par contre, du côté du positionnement institutionnel, selon le rapport Commitment of Traders, le positionnement des asset managers sur le contrat futur S&P 500, la position nette reste bullish. Là, il n'y a pas d'inquiétude, mais ces données ont une semaine de retard, donc il n'y a pas d'inquiétude au stade actuel. Et enfin, le réservoir des acheteurs s'est rempli, selon la dernière enquête de l'AAI, mais il y a toujours beaucoup de vendeurs. Bon. Donc, peut-on échapper aux 6200 points? Surveillez le support des 6750 points sur le contrat futur S&P 500. Maintenant, au-delà du S&P 500, il faut bien comprendre qu'un indice n'existe que parce que les actions le composent. Les 11 super secteurs du S&P 500, les actions du S&P 500 sont réparties au sein de 11 super secteurs. Vous avez ici les 11 super secteurs du S&P 500, Communication Services, Consumer Discretionary, Consumer Staples, Énergie, Financière, Santé, Industrie, la Tech, Matériaux, Immobilier, Utilities, leur poids dans l'indice. Comprenez bien que si le S&P 500 doit casser un support ou ne pas casser un support, c'est que les secteurs qui comptent le plus cassent ou ne cassent pas de support. Un secteur écrase tout le monde. Un secteur écrase tout le monde. Le secteur Information Technology, 70 actions sur 500, 34% du calcul de l'indice. Le rôle dominant de la tech. Le rôle dominant de la tech, d'ailleurs, dans la valorisation, dans les perspectives de profit. Le rôle dominant de la tech dans le message de l'analyse technique. Le S&P 500 cassera son support des 6750 points si le secteur de la tech enfonce son support pivot. Le S&P 500 ne cassera pas, conservera son inertie haussière, si le secteur de la tech préserve son support. Pour que le secteur de la tech préserve son support, un indice n'existe que parce que des actions le composent. Un indice est composé en secteurs. Un secteur n'existe que parce que des actions le composent. Le secteur dominant, c'est la tech. Ok, très bien. Dans ce secteur dominant, 70 actions, vous en avez 7 qui écrasent tout. C'est les Mag 7, les Magnificent 7. Pour résumer, le S&P 500 donnera un signal de correction s'il casse les 6750 points. Pour qu'il donne ce signal de correction, il faut que l'indice sectoriel de la tech casse un support. Je vais aller vous montrer le graphique dans un instant. Pour que celui-ci casse un support, il faut que les Mag 7 cassent ensemble un support, au moins 5 sur 7. Et bien, donc, il n'y a qu'à regarder les niveaux pivots de l'indice sectoriel de la tech et des Mag 7. On les tient, ces boules, on les casse, c'est la correction. Voilà. Donc, justement, alors, vous allez voir que les configurations, en plus, sont intéressantes. Donc, je me dirige vers l'indice sectoriel de la tech. En weekly, alors, voilà. Alors déjà, on n'est plus en surachat, il n'y a plus de div. Regardez comme c'était propre, la cassure technique haussière de juin 2025. On casse boule. On casse l'ancien sommet, ça part. Donc l'idée, c'est faut-il faire un retour à ce niveau? Un S&P 500 qui va à 6200 points, c'est ce secteur de la tech, je viens de vous montrer ces 34% de l'indice, qui revient à son ancien record. Vous voyez bien que là, il est dans une compression. Il en sort par le bas, c'est la correction. Il en sort par le haut, c'est l'inertie haussière. Voilà. Un S&P 500 qui revient à 6002, c'est un secteur de la tech qui se dirige vers cette zone-là. Il est donc actuellement dans cette compression. Et d'ailleurs, je reviens ici sur les données weekly. Regardez, on teste la Kijun Weekly, c'est le niveau des 5570 points. Donc en clair, vous avez l'indice de la tech, secteur tech, s'il casse les 5570 points, il sort par le bas de cette pattern et il retrace ici. Et donc le SP500 revient à 6002. S'il reste dans cette pattern et qu'il en sort par le haut, il n'y aura pas de cassure de support sur l'indice sectoriel, pas de cassure de support sur le S&P 500, et donc celui-ci restera dans cette phase, dans sa séquence d'inertie haussière. Alors bien sûr, l'indice sectoriel n'existe que parce que des actions le composent, les fameux Magnificent Seven, et vous allez voir donc que la plupart d'entre elles sont aussi sur des niveaux pivots qui est important de suivre, donc Nvidia, Microsoft, Meta, Apple, Amazon, Google, Tesla. Voilà les titres qu'il faut surveiller. Donc, vous prenez Nvidia. Nvidia, pour l'instant, c'est dans une espèce de phase latérale, légèrement ascendante. Pas de signe de vente, pas de cassure de support. Il y a un niveau ici à surveiller, qui est le niveau des 175$. Tant qu'on tient 175$, c'est boule. En dessous, ça va corriger. Et ça ramènera le S&P 500. Regardez par exemple Microsoft, le niveau des 460 points. Regarde comme le niveau est propre. L'ancien record de 2024. Au-dessus de ça, c'est bullish. On casse ce niveau. Ça va retracer fort mécaniquement le S&P 500. Donc, à la question de savoir, est-ce que le S&P 500 va casser 6750 points? Il faut surveiller ce niveau sur Microsoft. Il faut surveiller ce niveau-là sur l'action Nvidia. Il faut surveiller cette ligne de tendance sur Meta. Elle est archi propre, avec en plus le cubo weekly. Et vous voyez bien que c'est intéressant, c'est que là on va voir que Nvidia, Microsoft, Meta sont sur ces niveaux pivots. Ensemble, Apple, incroyable, idem, niveau pivot, ancien record ici de décembre 2024. Donc niveau pivot proche, niveau pivot proche, niveau pivot proche, niveau pivot proche. Amazon, pas de niveau pivot proche, les supports sont plutôt loin. Les premiers supports sont plutôt loin, donc il n'y aura pas ici un rôle important pour le S&P 500. Prenez l'action Google, c'est incroyable. Mais ça va finir par retracer aussi. L'action Google, bullish au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours. Là, pour le coup, cette tendance haussière est incroyable. Regardez le rôle du nuage journalier. Je dirais que pour Google, vous avez une succession de creux et de sommets ascendants. Un signal de vente, ce serait d'interrompre la série de creux et de sommets ascendants et donc de casser les 320 dollars. Casser les 320 dollars, c'est un signal. Et encore, ça peut être juste un retour au cumo. Donc, là, on voit que... Mais si vous voulez, si vous avez ensemble... Alors, sur l'action Tesla, vous avez vraiment ce niveau ici à des 430 dollars à surveiller. Toute cette zone-là, tout cet intervalle-là des 405-430 dollars, au-dessus duquel c'est bullish. Donc là, vous avez quand même des niveaux de coûts. Moi, je vous conseille vraiment d'aller sur l'horizon de temps, sur l'horizon de temps hebdomadaire. Vous avez quand même des niveaux pivots qui sont assez puissants sur l'ensemble de ces GAFAM. Et on voit que la plupart de ces titres sont positionnés dessus. Je trouve notamment celui de Microsoft qui est assez pertinent. Et vous avez la semaine prochaine les résultats trimestriels. Donc vous voyez bien que tant que ces niveaux tiennent sur les MAX 7, ça va être difficile d'envisager une correction forte du S&P 500. Ces niveaux 7, le S&P 500, naturellement, se dirige en direction des 6002. Donc pour résumer, finalement, ces MAX 7, je trouve que l'analyse technique de l'indice sectoriel de la tech, donc S5 INFT sur TradingView, vous avez cette compression, c'est ça qu'il faut suivre. On en sort par le bas, c'est la correction, on en sort par le haut, bien écoutez, l'inertie haussière continuera de se déployer. Le Russell 2000 a pris le lead. Alors là, je suis content parce que je vous ai montré tous les signaux techniques haussiers que donnait le Russell 2000 depuis maintenant plusieurs semaines. Le breakout a été confirmé. Et là, c'est pareil. Si vous voulez, il y a une sorte de rotation. Regardez le ratio entre les small cap et les big cap US. Et là, nous sommes vraiment dans une zone basse et tout proche. Regardez ici. La dernière fois, regardez ici. Le dernier signal, c'était pendant la crise sanitaire, novembre-décembre 2020. Et ça avait explosé à la hausse. Ça, c'était grâce à la liquidité de la Fed. Et bien là, regardez, on retasse le même niveau. Je suis sur le ratio Russell S&P 500. On retasse le même niveau d'accélération. Pas sûr que ça passe. Mais si ça passe, ça veut dire que les small caps vont faire mieux que le S&P 500. Il y a un rattrapage de la profondeur du marché. Il y a un vrai rattrapage là de la profondeur du marché. Et c'est donc quelque chose qui est important à suivre. Ce Russell 2000, je vous ai montré à plusieurs reprises les signaux bullish qu'il avait donnés. Et voilà, hein, les signaux bullish qui ont été donnés depuis plusieurs semaines, la cassure de l'ancien record, comme ce fut le cas ici, ou comme ce fut encore le cas ici, à chaque fois qu'on casse un ancien record, ça accélère. Donc là, l'analyse technique ne s'est vraiment pas trompée. Il y a vraiment un rattrapage de ces small caps sur les actions du S&P 500. Baisse des taux possible au T1, alors pas en janvier, sauf surprise. Vous avez vu la semaine dernière, ça a bien été confirmé à 2,6. Beaucoup doutaient en pensant que c'était 3. L'inflation temps réel montrait que le CPI était à 2,6. Cette semaine, c'est le PCE. Il y a eu un changement de calendrier. Les deux PCE en retard sont publiés ce jeudi 22 janvier pour être publiés avant la fête du 28 janvier. Ça peut peut-être changer les choses pour la fête, on verra. En tout cas, pour l'instant, c'est assez peu probable de voir la fête baisser ses taux fin janvier. Mais la question se pose sur mars ou avril. Et sur mars ou avril, ces PCE vont vraiment compter. Et donc, je vous remontre à nouveau le PCE temps réel de Trueflation qui est à 1,92. Donc, moi, je pense que nous aurons la semaine prochaine, cette semaine, des chiffres intéressants, encore favorables du côté du PCE. Alors, asset versus Warsh, le comparatif. Bon. Entre le moment où j'enregistre et je publie la vidéo, Trump a peut-être annoncé le nom du prochain patron de la Fed. Donc, vous avez qu'à regarder la colonne qui correspond. Dites-vous bien une chose, Kevin Asset est le choix le plus favorable aux actifs risqués en bourse. Kevin Asset est le choix le plus favorable pour le marché actions. Kevin Asset est le choix le plus favorable pour le marché des crypto-monnaies. Et Kevin Asset est le plus favorable en lien avec cette remise en cause, de la cible d'inflation de la Fed. D'autre part, il accorde beaucoup plus d'importance à l'emploi, à la croissance qu'à l'inflation. Lui, il peut tolérer un régime d'inflation plus élevé. Mais Kevin Warsh, lui, a l'avantage d'avoir peut-être plus de crédibilité en lien avec l'indépendance de la Fed. Donc, je ne sais pas. Au moment où j'enregistre sa vidéo, d'après Polymarket, c'est 39% de probabilité pour les deux. Je n'en sais rien. Il y en a d'autres à côté des petits candidats. Donc, on verra. Dans tous les cas, vous, si vous connaissez maintenant qui est le prochain patron de la Fed, regardez la colonne qui vous intéresse. Et ça vous donne le positionnement. Mais oui, de loin, Kevin Asset est globalement plus favorable aux actions et aux cryptos. Mais Kevin Warsh rassurerait quant à l'indépendance de la Fed vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis de l'administration Trump. Alors, je termine par vous remontrer, parce que vous ne l'avez peut-être pas vu, ce tableau que je vous ai proposé dans le Fast and Forex de la semaine dernière, faisant une synthèse, encore une fois, pas de scénario géopolitique, ni sur le Venezuela, ni sur le Groenland. Le Groenland qui est un état autonome danois. Le Venezuela, pareil. Je ne fais aucune perspective géopolitique. Mais en partant du principe que, d'une manière ou d'une autre, les entreprises américaines s'impliqueraient davantage, j'ai voulu sélectionner dans les 11 super secteurs de S&P 500 ceux qui sont le plus concernés. Et j'ai beaucoup insisté la semaine dernière sur le secteur matériaux. Parce qu'il n'est pas cher, parce qu'il est en rattrapage technique. Et donc, ça, je voulais vous remontrer. Et là, je suis assez content parce que c'est vraiment un secteur qui a bien performé. Regardez un peu comme il a empilé depuis la semaine dernière les bougies bullish et il arrive au contact justement, il arrive au contact de son ancien, vous voyez que lui il n'a pas encore dépassé son ancien record. Et donc si là il y a un breakout, regardez, hein, en cas de breakout, derrière ça accélère, un peu comme le breakout que je vous ai montré sur le Russell 2000. Donc je voulais vous remontrer ces secteurs ici importants à surveiller. Sur TradingView, vous avez les actions, vous avez la section qui correspond, et vous avez les actions qui composent ces secteurs. Ça permet d'aller chercher autre chose que des valeurs de la tech. En tout cas, vous avez là ici, en fonction des ressources naturelles clés, et alors bien sûr, pas de scénario géopolitique, mais les secteurs à suivre parmi donc les 11 super secteurs de l'indice S&P 500. Voilà, chers amis, merci à toutes et à tous de votre attention et bon début de semaine.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.